Vous écoutez IDFM, il est 10h.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Écolo d'IDFM Radio, mission verte, chaque jeudi de 10h à 10h30. Je suis Laurence, vous pouvez nous écouter sur le 98 de la bande FM ou sur internet idfm98.fr. Au programme de ce jeudi, un invité, Serge Chal, pour son magnifique ouvrage « Je jardine bio à la cou ». C'est paru aux éditions Le Duc, qui va nous donner plein de conseils pour avoir un jardin bio, comme le titre l'indique, mais surtout plein de bon sens, qui ne demande pas beaucoup plus de travail et qui a des résultats formidables. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site de la maison d'édition qui propose l'ouvrage, éditionleduc.com. Et merci à Francky pour la technique. On se retrouve juste après ça avec notre invité. À tout de suite. Et nous retrouvons Serge Chal. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de votre métier et surtout d'un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Le Duc. Il s'intitule « Je jardine bio à la cool ». Un ouvrage formidable qui devrait plaire à tout public. C'est d'ailleurs ce que vous rappelez dès les premières lignes. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs? Vous êtes docteur ingénieur en agronomie.
Oui, ça on va laisser tomber. Hein. Ça, c'est pas le plus intéressant. Surtout jardinier, depuis une quarantaine d'années maintenant. Donc effectivement, j'ai la potion, bien entendu, d'ingénieur agronome, mais finalement, c'est pas très très important. Il faut être passionné, puis il faut avoir un long apprentissage derrière toi, c'est ce qui est mon cas, puisque depuis plus de 40 ans, j'ai passé toutes mes différentes carrières professionnelles dans le végétal.
Alors, ce qui est formidable dans votre ouvrage, Je jardine bio à la cool, c'est à la manière du titre, vous présentez vos conseils avec le jeu, vos doutes, vos pressentiments, enfin tout ce que vous avez, votre expérience. Et l'ouvrage est découpé en 4 parties. Mon jardin bien nourri, mon jardin bien protégé, mon jardin bien entretenu, les bonnes pratiques au jardin bio. Et dès l'avant-propos, vous nous rappelez que cet ouvrage, c'est évidemment du bon sens. Hein. Vous nous donnez beaucoup d'anecdotes sur les pratiques d'antan, si j'ose dire. C'est assez facétieux et puis surtout fascinant parce que on n'a rien inventé. Et voire même, grâce à vos conseils, on revient à des usages qui sont arrivés parfois par inadvertance, et puis qui finalement ont donné leurs fruits et qui sont maintenant devenus des pratiques que l'on découvre ou que l'on redécouvre. Tout d'abord, vous le dites dès l'avant-propos, pourquoi ce livre ?
Eh bien, ce livre, d'abord, il est très 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 dense, il est très très touffu, mais en fait, vous avez commencé à le présenter avec ses 4 grandes parties et surtout ses 16 chapitres différents, et on l'a voulu tout de suite accessible aux débutants. Et également, il est à destination des gens qui ont déjà l'expérience, même une large expérience, pour les confirmer. Alors, la gageure, l'enjeu de ce livre, c'était effectivement de mettre tout ça, de traiter les types de publics différents et de n'en laisser aucun au bord de la route. Alors, c'est pour ça qu'il est finalement très, très, très structuré. Et puis, chaque fois, c'est un jeu de piste, en fait, où chaque fois, on prend le lecteur par la main en disant, bon, si vous êtes débutant, c'est pas la peine de lire les deux pages suivantes, c'est trop compliqué pour vous. Quand vous aurez fait votre expérience, vous y reviendrez, mais voilà. Donc, on a balisé comme ça le terrain. Je vais prendre le cas le plus parlant, le plus extrême. Vous vous souvenez peut-être que quand on avait des leçons à apprendre à l'école, en géographie, en histoire, peu importe, on avait la leçon et puis le résumé. Il y avait les 3 lignes de ce qu'il fallait apprendre par cœur et retenir du chapitre. Mais on a fait la même chose.
Exactement.
À chaque fois qu'on développe un thème, même très court, il y a cette notion de résumé, de dire qu'est-ce que je retiens de tout ce que je viens de lire. Et ça tient en 3 lignes. Donc vraiment, le néophyte, s'il ne lit que, et s'il ne retient surtout que ces courts résumés, il va faire déjà la base de son apprentissage dans le jardin bio. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le jardin bio. Il y a beaucoup de questions un petit peu tous azimuts. Il y a de quoi y perdre un petit peu son latin de potager quand on démarre. Donc il fallait ordonner tout ça, il fallait ne pas perdre de lecteurs en route, et il fallait surtout pas qu'ils découragent. Et vous l'avez dit tout à l'heure, en réalité, le jardin bio, c'est pour beaucoup, c'est la redécouverte finalement du jardin, tout simplement, tel qu'on l'a toujours pratiqué, sauf les deux dernières générations, on est passé à autre chose. Donc on revient à la pratique courante, au bon sens. Et cette pratique-là, elle est enrichie, effectivement, maintenant, par de nouvelles pratiques. Je pense à la permaculture, par exemple, qui n'existait pas, par de nouvelles observations, par une plus grande sensibilité à la biodiversité, à la connaissance du sol, etc. Donc, c'est une pratique, on va dire, quasi ancestrale, mais qui s'est enrichie des savoirs des deux, trois dernières générations. Voilà un petit peu si on doit dresser le tableau de ce livre, puis du jardinage bio en général.
Alors justement, vous parliez de la qualité du sol de son jardin. Souvent, certains jardiniers amateurs ou moins se demandent pourquoi telle plante ou tel fruitier, tel arbuste, etc. ne pousse pas. Or, souvent, on a une méconnaissance de la nature de son sol. Et là encore, faut s'y pencher.
Alors, on a non seulement une méconnaissance de la nature de son sol, mais avant même ça, on a une méconnaissance, enfin, en tout cas le débutant, une méconnaissance de l'importance capitale du sol, et notamment de l'humus, c'est-à-dire ce sont les quelques premiers centimètres depuis la surface en profondeur, on va dire les 10-15 centimètres de cette couche fertile, et ça c'est vraiment la base sur laquelle on va construire le jardin. C'est sa fondation et l'essentiel de l'attention et du travail du jardinier, ou du non-travail plus précisément, c'est de prendre soin de ces quelques centimètres qui font toute la richesse du sol. Et ensuite, dans un second temps, effectivement, il faudra s'inquiéter de la nature du sol, et je dirais c'est secondaire. Il faut vraiment s'inquiéter en permanence de ce que les spécialistes appellent la couche argilo-humée, que ça c'est le l'agronome qui reprend un peu le dessus, mais je le rassure, ça fait tout seul, justement, ça fait tout seul, si on respecte le sol, si on ne le chamboule pas du tout, ou très 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 peu, si on intervient le moins possible et qu'on prend soin de le nourrir naturellement, avec des engrais organiques, ou simplement en déposant une litière, ce que préconise la permaculture, eh bien ça se fait tout seul.
Alors justement, vous parlez de très peu agir sur ce sol. On a tendance à voir ces gros motoculteurs. Vous nous rappelez des outils très 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 innovants comme la fameuse grelinette.
Oui, alors c'est une aberration de labourer en profondeur. On peut le faire une première fois lorsqu'il s'agit de remettre en valeur un terrain. Alors effectivement, quand on démarre sur un terrain qui n'a pas été travaillé depuis des années ou des dizaines d'années, la terre est compacte, donc on a intérêt à décompacter tout ça. Et là, je veux bien qu'on passe un motoculteur, même un petit peu en profondeur, pour restructurer la terre. À partir de là, il va falloir toucher le moins possible au sol, il va falloir le laisser tranquille. Donc il va falloir vraiment se contenter à peine de le fraiser, à peine de le griffer, voire de rien faire du tout, ou d'utiliser la grelinette comme une grosse fourchette, juste pour le bouger, pour le décompacter, mais surtout pas de le mettre, cul par-dessus tête, c'est-à-dire on avait tendance avec le bêchage et le labour à récupérer toute la surface du sol pour la mettre en profondeur, ce qui est une hérésie, puisque toute la vie et toute la richesse du sol, il faut la laisser en surface, enfin à très faible profondeur. Donc vous voyez, ça c'est un genre de comportement nouveau en fait qu'on a redécouvert ces 20-30 dernières années. Ne surtout pas bêcher comme on le faisait par le passé.
Alors il y a un chapitre qui va beaucoup intéresser nos auditeurs, c'est dans la première partie le chapitre consacré au compost, car dans un an on y sera, je crois, tous. À marche forcée, ou presque. Néanmoins, c'est formidable parce que pourquoi aller s'embêter à dépenser des petites fortunes en jardinerie alors qu'on a tout sous la main?
Oui, presque. Alors le compost, il y a deux voies possibles. Celle dans laquelle on va nous contraindre d'ici un an et demi maintenant, c'est l'élimination des déchets organiques. Je fais une petite parenthèse, hein, il faudra y revenir dans un autre livre parce que Les choses ne sont pas claires du tout. On nous parle de biodéchets, donc ça englobe beaucoup de choses et trop de choses. Et à mon avis, comme c'est parti, ça va mal arriver, puisqu'on ne peut pas composter dans son jardin des matières animales, des arêtes de poissons, des choses comme ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc au jardin, le compost du jardin, on s'en tient aux déchets végétaux. Alors je ferme la parenthèse. Donc la première voie, c'est d'éliminer les déchets. Et la seconde voie, c'est de récupérer, si on le désire, effectivement un compost qui est un des meilleurs amendements organiques qu'on puisse avoir.
Je veux partir sur la lune, mais je suis pas astronaute. J'aurais dû faire des études pour porter le costume d'une autre. Je veux move in sur la lune, mais je suis pas milliardaire. Adieu le bleu de Neptune et les anneaux de Jupiter. La couche d'ozone.
Toujours sur IDFM Radio à l'écoute de l'émission Mission Verte jusqu'à 10h30. Nous sommes en compagnie de Serge Schall pour son ouvrage Je jardine bio à la cool, paru aux éditions Le Duc. On parlait du compost. Quels conseils nous donneriez-vous pour avoir le meilleur des composteurs à la maison?
Il y a le compost, on va dire, de jardin, hein, tout bêtement. Donc vous avez un composteur dans votre jardin qui est assez volumineux. Le lombricompost, c'est pour les gens qui n'ont pas de jardin.
D'accord.
Donc, ils vont avoir effectivement des contenants sur un balcon, sur une terrasse, voire dans leur cuisine. Mais c'est une autre technique parce que ça fait appel à d'autres vers, à des, ce qu'on appelle le vers de Californie. En fait, il n'est pas de Californie, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Et non pas au vers de terre, le lombric qui est dans la terre de jardin. Vous voyez?
D'accord.
Et maintenant,
okay.
Il est apparu une nouvelle façon de faire avec le bokashi.
Ah
le
oui,
bokashi,
oui.
C'est encore une méthode pour se débarrasser des déchets organiques, donc on fait ça dans sa cuisine, dans la maison, et là il n'y a plus du tout de verre, mais il y a des moisissures, des ferments, etc., etc. C'est une troisième technique, vous voyez. Et à chaque, en fait, si on reprend le problème à l'envers, c'est de dire est-ce que j'ai la place de mettre un composteur entre guillemets de jardin? Si je n'ai pas la place, eh ben je me rabats sur le lombricomposteur, et si les verres ça me dégoûte un peu, ben j'achète un bokashi.
Alors, il y a aussi, donc, si on passe à la partie suivante, depuis la période confinement, Covid, beaucoup de gens se sont remis à cultiver, à potager, comme on dit, et certains ont découvert ou redécouvert les fameuses maladies du jardin. Là encore, vous nous rappelez à chaque fois, avec une fiche, hein, c'est quoi, ça fait quels dégâts, comment l'éviter, comment la traiter. Donc ainsi, chacun pourra peut-être découvrir ou se prémunir de la fumagine, du mildiou ou encore de la rouille, ou encore des champignons et autres nuisibles, inévitables, mais qui, pour certains, comme sont importants dans le jardin parce que ça fait partie de la biodiversité. Cette biodiversité que vous nous rappelez est essentielle pour le potager, pour la vie du jardin.
Oui, alors j'ai fait un petit vade-mecum des principales maladies et des principaux insectes nuisibles, ce qu'on retrouve presque tous les ans d'une manière ou d'une autre, de manière plus ou moins importante. Il y en a beaucoup d'autres, mais je le dis de manière un petit peu détendue en disant qu'il ne faut surtout pas se polariser sur les maladies de toutes sortes, parce que sinon on a l'impression de mettre le nez dans le Larousse médical et on se dit mais c'est pas possible, ça va tout attraper et il va rien arriver. Non, il faut se calmer. Donc j'ai pris vraiment les cas les plus courants avec des solutions très très simples pour non pas éradiquer les maladies ou les populations de nuisibles. Ça, c'est un comportement de l'ancien jardinage, mais effectivement d'établir, et c'est une composante du jardin bio, d'établir un équilibre. C'est-à-dire, on va prendre un exemple concret, le puceron. Avant, on sortait le pulvérisateur et on balançait un produit insecticide pour se débarrasser de tous les pucerons. Donc, c'est la chose à ne pas faire. Là, maintenant, on a des solutions pour abaisser les populations de pucerons, mais en garder un petit peu, parce qu'il y a d'autres insectes, les cirfes, les coccinelles, etc., qui vont des chrysopes qui vont manger des pucerons. Donc vous voyez, il faut maintenir un équilibre. La question n'est plus d'éradiquer complètement et de supprimer complètement un insecte nuisible, mais d'arriver à un équilibre satisfaisant. Et effectivement, comme vous venez de le dire, tout ce grand tout fait partie de la biodiversité dans toutes ses composantes.
Vous nous dites justement, hein, dans le passé à l'action, qui est cette petite rubrique que l'on trouve par-ci par-là, vous dites aux pucerons, passez-leur un savon, ou vous nous donnez comme conseil le fameux savon noir qui est revenu à la mode depuis une petite dizaine d'années, qui est utile à beaucoup beaucoup de choses, et notamment au jardin, pour lutter contre les pucerons. Et puis surtout, vous nous rappelez la fameuse leçon de dilution au pourcentage et au volume, que certains comme... littéraire que je suis, ont du mal à intégrer. Et là, vous nous rappelez vraiment, c'est très simple, il suffit vraiment de lire et d'appliquer ce que l'on lit. Ensuite, vous nous rappelez comme plante qu'on dit souvent les indésirables, tels que l'ortie. Or, l'ortie a des vertus insoupçonnées.
Oui, bien sûr, l'ortie, c'est une plante médicinale, c'est une plante alimentaire également, c'est une plante qui nous sert effectivement au jardin bio comme fertilisant et surtout comme insectifuge. Donc, ça est beaucoup, beaucoup de qualité. Vous avez raison de souligner ça, c'est que je reviens toujours à mes anciens comportements et la nouvelle façon, la nouvelle vision apporté par le jardin bio, c'est-à-dire qu'avant il y avait ce qu'on appelait les mauvaises herbes au jardin, et en fait de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes du tout, il y a pas de celles qui sont anodines, inutiles, mais qui sont là. Donc voilà, effectivement, on a complètement changé de regard sur les mauvaises herbes, entre guillemets, je vois encore, l'ortie c'est le porte-étendard de ce qu'il ne faut plus faire. Mais il y en a bien d'autres. En fait, il faut laisser toutes les mauvaises herbes, il faut les laisser. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est le seul chapitre où on n'a vraiment aucune solution satisfaisante, c'est le désherbage. Pour l'ordin bio, autant il y a plein d'autres solutions pour tous les autres problèmes. Le désherbage, non, il faut continuer à le faire à la main. Bon, c'est pas très, très, très fatigant non plus. C'est uniquement indispensable pour les semis. C'est-à-dire, quand vous faites un semis de carottes, par exemple, qui met du temps à lever, vous êtes obligé de désherber à la main vos semis de carottes. Ils vont être épuisés rapidement. Et tout le reste, tout ce qui veut bien pousser dans le jardin et qui ne gêne pas, il faut le laisser.
Et on va suivre votre conseil parce que là, le printemps est bien là, même s'il faut encore être prudent parce que les seins de glace ne sont pas passés. Néanmoins, il y a beaucoup de choses à faire au jardin et avec la sécheresse hivernale qu'on vient de connaître, tout un chapitre sur tout ce qu'il faut faire au jardin pour le conserver le mieux, en meilleure santé possible, surtout que l'eau, c'est vraiment la vie. Alors, vous nous donnez beaucoup de conseils sur comment la garder, cette eau, comment l'utiliser à bon escient, et avec des aides comme le paillage aussi. Là encore, on l'avait un peu occulté, là, il revient en force.
Oui, alors l'eau, c'est effectivement, on le voit cette hiver de manière aiguë, et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. L'eau, il faut l'économiser, il faut tâcher de ne pas la perdre, il faut tâcher de la récupérer. Voilà un petit peu les trois sujets par rapport au jardin. Donc, et une des manières les plus efficaces, soit pour éviter de la perdre, donc elle se perd essentiellement par évaporation, c'est d'avoir recours au paillage. Donc effectivement, le paillage qui a beaucoup d'autres qualités, il ne sert pas uniquement à conserver la surface du sol frais, fraîche, mais ça sert également, on vient de parler de désherbage, ça empêche la levée des mauvaises herbes, c'est un refuge pour des tas de petites bestioles qui sont utiles pour dégrader toutes les matières organiques, tous les déchets, et donc qui vont enrichir l'humus, la fraction humique dont on parlait en introduction. C'est également une source organique parce que le paillage, il va finir par se décomposer, donc il va enrichir le sol. Vous voyez, il y a beaucoup de choses et ça empêche également l'érosion. On n'a jamais trop en tête l'érosion des sols. La règle d'or en jardinage, j'ose même plus dire en jardinage bio, mais en jardinage tout court, c'est de ne pas laisser une surface de sol nu. Parce que là, entre le soleil, le vent, les fortes pluies, il y en a, etc., etc., ça détériore rapidement la surface du sol. Donc, il y a une érosion terrible. C'est pour ça qu'on laisse toujours un couvert. Vous voyez, je vais vous parler des mauvaises herbes, je remets les guillemets. Et bien là, elles peuvent intervenir. Rien que par leur présence, elles protègent la surface du sol. Quand on en a passé, on sème des engrais verts pour la même raison et pour d'autres raisons aussi. Voilà, donc ne jamais, ou alors on met un paillage, ne jamais laisser la surface du sol nue.
Alors, vous rappelez également un paillage vert, pas minéral, parce que là, c'est pas...
Oui, un paillage organique. Alors après, il y a des paillages décoratifs.
Ah oui, vous parlez des fèves de coco passées au-dessus.
Alors, fèves de coco, c'est encore autre chose. Mais il y a des paillages minéraux, alors, ils sont jolis, ils sont décoratifs, ça peut avoir une incidence parce que ça condense pas mal l'eau, la rosée en fait, donc voilà. Mais d'un autre côté, en pleine chaleur, dans les régions chaudes, ça emmagasine la chaleur, c'est pas forcément une bonne solution non plus. Hein.
En plus,
et après, il y a tout un choix de paillage organique, alors là, il y a ses avantages.
Et puis,
mais il faut faire ça.
Puis souvent, ça peut être gratos, comme vous le rappelez, parce que on a tout sous la main. Ce soit donc les restes de tonte, parce que quand on a un jardin, on a une petite pelouse, donc on garde ça dans un coin où on paille tout de suite. Les feuilles mortes, si on en a eu à l'automne, des fois on peut mettre ça dans un coin, on peut en garder comme ça assez longtemps. Et puis les branches, lorsqu'on commence à tailler quelques arbustes, on demande à un copain qui a peut-être un broyeur ou on en loue, ça coûte c'est moins cher à louer que acheter des gros sacs, surtout que la plupart on sait pas trop comment c'est fait, avec quoi c'est fait. Là au moins c'est 100% local, 100% bio, 100% de chez vous. C'est vraiment une super idée. On continue dans votre ouvrage dont je rappelle le titre, Je jardine bio à la cool. On l'a compris, on peut vraiment aller piocher dans chacun des chapitres, chacune des grandes parties, tant il y a à découvrir. Et la dernière partie, c'est donc les bonnes pratiques au jardin bio, notamment les associations de plantes, parce qu'on a tendance à mettre celles que l'on veut voir pousser. Or, il y a quand même quelques règles à respecter si l'on veut avoir une belle production. Il y a aussi comment faire ses graines, favoriser la biodiversité, vous rappeliez la permaculture. Et j'avais oublié jardiner avec la lune. Là encore, hein, c'était une pratique ancestrale qui était un peu perdue, enfin qui était un peu démodée ces dernières décennies, ou c'est moi qui étais à côté.
On était à côté, hein, parce que ça s'est jamais démenti. Ça a toujours eu beaucoup de succès. Bon, moi, je suis très réservé. Hein, je le dis, vous le disiez en tout début dans votre présentation que. Je parle de mes expériences, je parle de mes ratages, enfin, à la première personne, hein. C'est
oui.
un livre qui est bien sûr destiné à un large public, mais qui est écrit à la première personne. Et je prends quand même énormément de précautions. Je dis que bon, moi, je suis pas très, très fanat du jardinage avec la lune, mais ça ne fait pas de mal, c'est sûr. Et puis, c'est sympathique. C'est un petit peu comme les dictons, vous voyez. Ça fait partie un petit peu du patrimoine. Rural, du patrimoine, des jardiniers.
Il ne faut pas attendre de
miracles. C'est pas parce qu'on va jardiner avec la lune qu'on va passer à un cap supérieur.
Et surtout, il y a vraiment, parce qu'il y a toujours un petit fond, hein, dans tout ce qui est proverbe et pratique
oui.
ancestrale, les fameuses Saintes Glaces, l'été de la Saint-Martin, c'est quand même. C'est du certain, quoi. On peut compter dessus.
Oui, oui, tout à fait. Non, il y a toujours un fond d'observation. Mais vous savez, la lune, c'est comme... Il y a, à mon avis, un petit biais. C'est-à-dire que les gens qui jardinent avec la lune, ce sont d'abord des jardiniers qui sont de très, très bons observateurs. Donc, ils sont toujours aux aguets. Ils essaient de comprendre. Et ils emmagasinent beaucoup d'informations. Ils font le tri. Et ça, d'une saison sur l'autre. Ils ont beaucoup de mémoire, et voilà. Donc, ce sont de fins observateurs. C'est ce qu'on devrait faire pour n'importe quel jardin. La première chose à faire pour son jardin, c'est de le connaître.
Oui.
Et c'est pas en arrivant, en posant ses valises, qu'on connaît son jardin. Son jardin, je vais parler concrètement, hein, encore. Moi, je connais les zones où il y a un tourbillon de vent. Je connais, une autre zone qui est toujours à l'ombre. Je parle de mon jardin, hein. Une zone où il y a vraiment un couloir de vent, etc., etc. Donc tout ça, je le connais, mais parce que ça fait des dizaines d'années que j'habite au même endroit. Donc les gens, je reviens à la lune, les gens qui jardinent avec la lune, ce sont d'abord de très fins observateurs et qui sont vraiment, qui ont une bonne connaissance de leur jardin, puis des saisons, etc., etc. Et en ce sens, s'ils additionnent effectivement la lune, ils ont de bons résultats. Mais penser qu'on arrive comme ça, comme un rien, puis qu'on suit bêtement un calendrier lunaire, on n'aura pas de miracle de fait.
Eh ben, on va suivre tous vos conseils en allant en librairie découvrir Je jardine bio à la cool. On l'a bien compris, lorsqu'on veut jardiner bio, il faut pas se prendre la tête. L'essentiel est dans l'observation, dans le minimum de manipulation d'outils, mais d'utiliser vraiment ce qu'on a sous la main avec les biodéchets, etc. Beaucoup de conseils aussi pour les associations de plantes, sur les rotations, sur la permaculture. Parce que finalement, la permaculture, on peut le dire, hein, c'est le potager du flemmard. Non, j'exagère. Mais néanmoins, on apprend beaucoup, beaucoup de choses pour que ce soit à moindre effort, un maximum d'effets. Et c'est formidable. On va vous souhaiter un excellent printemps au jardin. Et,
oui, c'est bien parti, là. Ça y est, ça commence à se lever.
Une belle santé à votre jardin et à vous-même. On rappelle que pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent cliquer sur le site editionleduc.com pour avoir toutes les infos sur l'ouvrage de notre invité Serge Chal. Et puis, je ne sais pas si vous-même vous êtes sur les réseaux sociaux, si on peut vous suivre, ou on va directement sur le site editionleduc.com pour en savoir plus sur votre travail, sur les ouvrages que vous proposez, dont Je jardine bio à la cool. Êtes-vous sur les réseaux ou...
Non. Aucun réseau social, parce que ça prend énormément de temps.
Voilà.
Je préfère consacrer mon temps à jardiner.
Vous avez tout à fait raison. Vaut mieux regarder un carré de verdure qu'un carré bleu, je pense,
oui.
aux écrans. Et en plus, le temps passé à observer est tellement plus enrichissant. Je vous suis exactement là-dessus. Merci encore à vous. Et puis, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Et nous arrivons au terme de l'émission. Merci à vous pour votre attention, pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver en podcast sur edfm98.fr. Merci encore à Francky pour la technique, à suivre Sabrina et son émission Au cœur de l'assaut. À la semaine prochaine et bonne journée sur les ondes d'EDFM Radio. Au revoir.
écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.